les enfants de Chronos.
Le 2 septembre 1914, les Allemands entrent dans Nanteuil et Ernest Corby fait partie des quelques habitants demeurés sur place. La plupart ont fui, mère en tête. Occupant de l'une des plus belles maisons du village, il se retrouve rapidement face à l'envahisseur. Attendant le premier contact, qu'il sait imminent, il est tout de même très surpris de voir entrer dans la cour de l'hôpital un cycliste allemand, pressé, mais visiblement sûr de ses faits et gestes. Alerté par cette irruption, le vieil homme est intrigué par l'assurance du soldat qui lui demande la motocyclette du docteur Grenier, le maire en fuite, pour se rendre rapidement à son rendez-vous avec le général commandant d'artillerie, son vélo nécessitant une réparation. Ayant connaissance de l'existence de la motocyclette, l'Allemand sait également où trouver une hache pour briser la porte où est habituellement rangé l'engin si précieux. Un voisin l'empêche cependant de détruire la porte en lui donnant la clé. Ensuite, il s'adresse à Ernest Corby en l'appelant par son nom, sans que celui-ci ne se soit présenté auparavant. La moto étant hors d'usage, le soldat est contraint de réparer sa bicyclette lui-même. C'est alors l'occasion pour Ernest Corby d'interroger son interlocuteur et de comprendre comment il est possible qu'il soit si familier des lieux et des gens. Celui-ci lui répond qu'il connaissait bien le docteur et ses fils, qu'il faisait avec eux des études médicales à Paris, qu'il venait souvent passer le dimanche avec eux à Nanteuil et qu'à la mobilisation, il avait dû rentrer en Allemagne pour prendre son poste. Après réflexion, Ernest Corby ne manque pas de se remémorer qu'il avait déjà croisé ce qu'il appelle un excursionniste, mais qu'il n'avait jamais imaginé qu'il préparait alors l'invasion. Quelques heures plus tard, c'est un cavalier allemand de haut rang, un général, qui se présente rue Gambetta. Laissons alors Ernest Corby nous raconter l'événement tel qu'il l'a vécu. Ce passage est l'un des rares souvenirs vivants et mis en scène par notre courageux notable. Il témoigne de la stature de l'homme. J'étais occupé au triage des archives et titres de propriété de notre hôpital pour pouvoir mettre en sûreté les pièces les plus importantes. Et, à cause de la chaleur, toutes les fenêtres étaient ouvertes, lorsque tout à coup, vers 3h30, j'entends des coups vivement répétés sur la tôle de ma grille d'entrée. Le temps de courir à ma fenêtre et je vois ma bonne, surprise à la vue de plusieurs bras armés de revolvers dirigés sur sa personne, ouvrir la petite porte et aussitôt deux soldats se précipiter sur ma grille et l'ouvrir pour laisser passage à un grand cavalier brun qui, en apercevant ma bonne, s'écrie étonné. « Une femme ici ?»« Oui, monsieur, un vieillard et sa bonne. » Il s'incline devant elle et au moment où, descendu vivement, je m'avançais vers lui, ne sachant trop comment j'allais l'aborder, rester sur son cheval, il me tend la main gauche en disant « Loyalement, monsieur. » Je répondis « Loyalement. » Il allait descendre de cheval. Arrêtant son mouvement et me regardant fixement dans les yeux, il me dit « Comment se fait-il que vous soyez resté seul ici? On ne voit plus personne. » « C'est bien simple, lui répondis-je. Il y a 44 ans, je vous ai déjà logé 7 ou 8 mois. Je sais ce que c'est. » Je dis « vous ». Je devrais plutôt dire vos pères, car de vous tous, il n'y en avait peut-être pas encore un seul qui marchait. « C'est très juste, me répondit-il en descendant de son cheval. L'escorte était nombreuse, je leur abandonnais ma maison presque tout entière, et dans l'état où tout était à l'ordinaire, porte et armoire ouverte ou clé aux portes. Ils agirent comme ils me l'avaient annoncé en entrant, puisque personne ne mit le pied dans la partie de la maison que je m'étais réservée, et que rien après leur passage ne manquait en fait de linge, ustensiles ou provisions. Une fois les Allemands arrivés en nombre, ils réquisitionnent les denrées et prennent possession de Nanteuil. Le maire ayant fui, Ernest Corby et quelques autres jouent les intermédiaires et évitent bien des drames et des destructions. Pendant ce temps, Senlis brûle, et les otages, dont le maire Eugène Audan, sont fusillés. Meurtri par ces événements terribles dans la ville qui lui est si chère, Ernest Corby regrettera longtemps le contretemps qui coûtera en plus à la ville la perte des archives du tribunal qu'il avait entrepris de sauver. Des 151 manuscrits des bailliages de Senlis et Crépy devant être encore transférés à Beauvais 2 mois plus tôt, seuls les 7 qu'Ernest Corby a lui-même expédiés échappent à la destruction. Rappelons qu'il ne manquait que 200 francs. Contraint d'héberger des officiers allemands, il est aux premières loges durant ces quelques jours cruciaux de la bataille de Lourcq. À compter du 6 septembre, la bataille décisive est engagée, Nanteuil se retrouve au cœur des combats. Avant de comprendre comment et pourquoi Ernest Constant Corby, d'une certaine manière entré dans l'histoire après avoir contribué durant des décennies à la rendre mieux connue, il est nécessaire de faire un point sur le contexte dans lequel se situe Nanteuil et sa région au lendemain de l'invasion allemande et à la veille de ce qui va devenir le miracle de la Marne pour la propagande française et la bataille de Lourcq pour les militaires. Il serait cependant plus approprié d'appeler bataille du Valois-Mulcien d'un point de vue géographique. les colonnes allemandes sont parvenues aux portes de Paris. La victoire est à portée de Moser. Après les premiers combats autour des collines de Montion et de Panchard, à la lisière de la Seine-et-Marne le 5 septembre, la bataille commence véritablement le 6, et un front s'établit rapidement, parallèle au cours de l'Ourcq, du nord de Meaux jusqu'à Étavigny. Malgré de nombreuses attaques françaises, les Allemands tiennent fermement ce front, grâce notamment à une artillerie lourde placée à l'arrière, autour de Varède, de Trossy ou de Rozoy-en-Mulsien. Cette artillerie a fait de lourds dégâts dans ces combats intenses. Chaque camp cherche alors à prendre de flanc son adversaire par le nord. C'est dans ce contexte que dans la nuit du 7 au 8 septembre, des taxis parisiens sont réquisitionnés sur l'ordre du général Gallieni. Le gouverneur militaire de Paris veut acheminer 5000 hommes, au moins. Ils appartiennent au 103e et 104e régiment d'infanterie et ils débarqueront à Nanteuil et à Silly-le-Long. Il s'agit en fait de renforcer cette partie du front, plus à l'ouest, pour se protéger d'un enveloppement ennemi. Entre-temps, Nanteuil est redevenue française et c'est un nouvel hôte de marque qui loge chez Rugambetta chez l'érudit, le général Boël. Entouré de son état-major, le général puise auprès d'Ernest Corby de précieux renseignements sur la présence allemande. Celui-ci leur dresse un croquis des positions réciproques qui fait visualiser au général les forces en présence et le risque encouru à conserver son PC dans la cuvette que forme la vallée de la Nonette. La situation annonce des heures difficiles pour Nanteuil au soir du 8 septembre. Côté français, la situation est en effet plus que critique. L'approche allemande est masquée au nord par le bois du Roi, de Droisel à Lévignan et même jusqu'à Baie. Conscient du risque de contournement et du peu de visibilité, le général Boël ordonne donc dès leur débarquement en gare aux 315e et 317e régiments de se mettre en position au sud du bois du Roi pour en surveiller les débouchés. Pour essayer de vaincre les Français, le général von Kluck a fait remonter vers le nord des corps d'armée qui avaient déjà passé la Marne. Les forces allemandes dans le secteur du Valois-Mulsien sont donc de plus en plus nombreuses et par conséquent de plus en plus difficilement contenues par les forces de la 6e armée française. Du côté allemand, bien que la situation dans le Valois-Mulsien soit plutôt favorable, le transfert des corps d'armée du sud de la Marne vers le nord a créé des problèmes. Le corps expéditionnaire britannique et la 5e armée française qui remontent vers le nord pour affronter la 1ère armée de von Kluck et la 2e armée de von Bülow trouvent face à eux un front dégarni. Une brèche de plusieurs kilomètres s'est créée entre les deux armées allemandes. Ce vide d'hommes menace désormais ces derniers et ils risquent d'être pris de flanc. Sur les ordres de von Kluck, une importante attaque de contournement est ordonnée pour la matinée du 9 septembre. Des forces nombreuses, très supérieures à celles des Français, doivent franchir le bois du Roi et attaquer en direction de Boissy-Fresnois et de Nanteuil. Au même moment, une brigade d'infanterie, la brigade Lepel, attaque depuis le nord-ouest, Fère-Droisel et Nanteuil. L'armée française qui regarde vers l'est où se situe le front risque donc d'être prise à revers. Alors que les Allemands attaquent au cœur du Valois, des troupes allemandes de la 1ère armée, dans la région de Meaux, sont déjà en train d'effectuer leur retraite vers le nord. L'attaque du 9 septembre serait-elle alors une feinte, une diversion visant à protéger le repli en bon ordre des forces allemandes? On peut légitimement le penser. Cependant, cette attaque n'est pas feinte. Elle est même d'une violence inouïe. Les unités allemandes, plus nombreuses et bien équipées, font vite subir aux deux régiments sartois montés en ligne la veille de très lourdes pertes du côté de Droisel. Les Allemands possèdent des mitrailleuses lourdes, et grâce à l'appui de deux batteries d'artillerie, ils peuvent marmiter les troupes françaises. En début d'après-midi, les troupes allemandes sortent du bois du Roi et attaquent Boissy-Fresnois. Ces troupes se dirigent peu à peu vers Nanteuil, forçant le général Boël à quitter le village et à déplacer son PC plus au sud, tout en organisant comme il le peut la défense du secteur. Malgré le repli imposé à Boël par les Allemands, le général est marqué par le vieil homme. Il l'a si précieusement renseigné et hébergé. Cet épisode, allié à l'accueil reçu et à l'agréable compagnie de l'érudit nanteuillais, marquera profondément le général. Donc la victoire de l'Ourcq restera son grand fait d'armes, et les deux hommes se lieront d'amitié après la guerre, lorsque le général entame un échange de correspondance avec Ernest Corby, pour retracer bien entendu les détails des éléments de la bataille de l'Ourcq à l'heure d'écrire ses mémoires. Preuve ultime des relations sincères qui existaient entre les deux hommes, Victor René Boël assistera aux obsèques d'Ernest Corby 10 ans plus tard. Mais l'heure n'est pas au sentiment. La batterie d'artillerie française sont repositionnées et se mettent à bombarder intensément Droisel depuis le carrefour de la Croix-du-Loup près de Nanteuil, et depuis la côte 116 au nord d'Ogne. D'autres batteries arrosent les positions allemandes qui tentent d'attaquer Nanteuil par le sud-ouest. Elles sont postées sur la route qui mène de Sennevières à Silly-le-Long. Des troupes d'infanterie du 102e aident à contenir les attaques allemandes.